Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes bien sur le Curious Live. Avec Clément, nous sommes aujourd'hui accompagnés de Léa, Mathieu et Salomé pour le troisième épisode de cette saison. Le thème de cette année porte sur l'évolution de la communication dans l'histoire et aujourd'hui, c'est de la communication responsable dont nous allons vous parler. Avant même de vous en dire plus sur le sujet, nous avons été à votre rencontre et nous vous avons posé la question « C'est quoi la communication responsable ?» On vous écoute.
Moi, ça me fait plutôt penser à l'environnement, le mot « responsable ».
Ce serait un peu de la communication engagée, quoi. Ouais.
Est-ce que vous pensez que ça peut pas amener à du washing des marques qui font semblant d'être responsables et qui au final utilisent ça juste pour leur image et qui ne le sont pas vraiment?
Pour moi, tout ça, c'est vraiment c'est pensé juste par des gens qui veulent faire encore plus d'argent et donc se donner une bonne image en faisant comme s'ils étaient responsables alors que pas du tout.
Pour moi, l'intérêt de la communication, c'est de faire communiquer ce que les gens veulent entendre. Donc, si les gens aiment du vert, on sera vert.
Du coup, est-ce que vous avez des exemples de marques ou d'entreprises qui ont une communication responsable?
Ouais, peut-être Yves Rocher, là, j'imagine qu'il doit faire des pubs où ils disent qu'ils font pâter sur les animaux.
Pour prendre le cas de Patagonia, le propriétaire a légué l'entièreté de ses parts pour la défense de l'environnement. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas du washing. Après, ça fait toujours bien, de, par exemple pour The North Face, de faire des pulls qui consomment moins d'eau pour leur fabrication.
Total qui change son logo, McDonald's qui passe le fond de son logo en vert.
Merci à tous ceux qui nous ont répondu. Vous l'avez compris, nous sommes partis à la rencontre des jeunes afin d'avoir leur avis sur ce sujet dont on ne parle pas depuis si longtemps. Et ce qu'on remarque, c'est que les jeunes interrogés tendent à poser la question de est-ce qu'il n'y a pas parfois un décalage entre ce qui est dit et ce qui est concrètement fait, mais on va aborder ça ensemble tout à l'heure. Mais d'abord, la question que tout le monde se pose, Salomé, c'est quoi la communication responsable ?
C'est un type de communication qui prend en compte les impacts environnementaux et sociaux. Ça s'applique aux entreprises, mais également à toute forme d'organisation. Par exemple, c'est rendre plus attrayants les produits d'une entreprise en valorisant son engagement environnemental et social. Le monde de la communication change et se transforme. Il y a de plus en plus de sources d'informations et ça a tendance à noyer les publics. Cela engendre une perte de confiance envers les entreprises et les organisations dans leurs discours. Il y a une multiplication des fake news, dont vous avez parlé lors du dernier épisode. On peut alors se retrouver perdu dans cette masse d'informations. La communication doit donc se remettre en question pour être un gage de confiance et mettre ses compétences et son énergie au service de la transition écologique. Pour ça, elle se doit d'être attentive à l'actualité et au public, ce qui va permettre d'accompagner, voire d'accélérer le changement dans notre société.
Et oui, la communication responsable s'adapte aux problématiques d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que la transition écologique ne date pas d'hier non plus. Alors nous avons avec nous Cyril Maslow, chercheur et directeur adjoint du laboratoire Siméos, également maître de conférences en sciences de l'information et de la communication. Tout cela à l'université de Bourgogne-Franche-Comté. Depuis quand la notion de responsabilité est-elle devenue importante en communication, Cyril ?
Alors, moi, à chaque fois que je parle de ça, j'ai un article et puis même un cours dans lequel je parle de la communication responsable. Pour moi, je cite toujours des références qui viennent de 2009. Donc, vous voyez quand même, c'est pas si jeune que ça à notre aune, hein. Et en fait, on trouve assez peu de publications scientifiques qui parlent ou qui essayent de définir la communication responsable avant 2009. Voilà. Alors, quelques bribes avant, bien sûr, on ne peut pas ne pas citer Thierry Libert, qui est l'un des pionniers, des précurseurs sur tout ce qui est communication et environnement, ou communication environnementale, pour le dire plus comme ça maintenant. Là où vous avez raison sur l'idée de dire que c'est récent, c'est plutôt dans le monde civil, c'est-à-dire chez les acteurs, hein, concrètement, pour le dire comme ça, les acteurs du monde de la société civile, des collectivités, mais aussi de l'État, c'est beaucoup plus récent. Si on ne peut citer que, par exemple, ce que fait l'ADEME, qui est quand même à la pointe de ce côté-là, hein, sur ces notions-là, leur guide de l'éco-communication, date de 2020, hein, seulement. On a quelques acteurs qui s'y intéressent depuis les années 2015, mais vraiment, ça commence à monter en puissance et à devenir quelque chose dont on parle, en tout cas un phénomène dont on parle chez les acteurs de la société civile. Allez, 2018, ça a commencé vraiment dans ces zones-là. Donc, vous voyez, deux temps, un temps de la recherche plus ancien et un temps plus récent du côté des acteurs au sens large du terme.
C'est vrai que cette notion de responsabilité représente un réel défi à prendre en compte pour les communicants d'aujourd'hui. Quels sont les enjeux de cette communication responsable, Salomé ?
La communication responsable a plusieurs enjeux. En 2020, l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique en France, met en valeur trois dimensions dans son guide de la communication responsable. Donc premièrement, un enjeu écologique. Cela passe notamment par le fait d'éviter la consommation de ressources naturelles, avec l'énergie, le papier, les emballages, l'utilisation de produits nocifs ou dangereux, les encres, les solvants, ou encore la production de déchets. Elle vise également à être plus attentif aux pollutions liées à la fabrication, au transport et à l'usage. Il faut les éviter. Mais aussi aux enjeux d'inclusion et d'accessibilité. En deuxième enjeu, on peut citer l'authenticité des messages et la transparence des démarches envers le public et les consommateurs. Cela peut avoir ensuite des répercussions pour ainsi responsabiliser les destinataires du message afin de leur faire changer leurs habitudes. Enfin, comme dernier enjeu, nous retrouvons le fait pour les entreprises de communiquer sur les enjeux et leurs engagements en matière de développement durable et de responsabilité sociétale des entreprises, la RSE. Nous pouvons alors en savoir plus sur les impacts environnementaux et sociaux de l'entreprise, ou encore sa diversité culturelle, les conditions de travail et la prise en compte du handicap.
C'est vrai que les entreprises ne peuvent plus se passer de prendre en considération cette notion de responsabilité et d'authenticité dans leur stratégie de communication. Que font les marques pour inclure cette dimension dans leur campagne, Clément ? Tu as des exemples de communication responsable bien réussie ?
Alors, en faisant mes recherches, je suis tombé sur une pub de Nike que je ne connaissais pas et qui est sortie en fait en Russie il y a 5 ans. C'est pour ça que je ne la connais pas et que sûrement peu de gens la connaissent ici. Alors en fait, c'est une campagne qui s'appelle « De quoi sont faites les filles ?». C'est une vidéo dans laquelle on voit une petite fille dans un théâtre ou dans un opéra et qui se met à chanter une chanson dont les paroles sont « De quoi sont faites les filles ? De bijoux, de fleurs, de potins et de confitures. » Bref, des paroles très stéréotypées. Et puis, tour à tour, en fait, on va avoir des athlètes russes qui vont apparaître dans ce théâtre, donc des sportives, toutes des femmes, et qui vont donc donner confiance à la petite fille. Et les paroles de cette chanson vont changer, en fait, et ensuite, elle va se mettre à changer que les femmes sont faites de combat, de persévérance, d'accomplissement ou encore de réussite, selon quelle sportive est présente. Et à la fin, en fait, il y a une footballeuse professionnelle russe qui apparaît, Ksenia Lazareva, et qui envoie un ballon à la petite fille. La petite fille l'attrape et se retrouve alors dans un terrain de football, prête à tirer un penalty. Et ensuite, un message apparaît, vous êtes fait de ce que vous êtes, de ce que vous accomplissez, suivi du logo de la marque, donc sous-entendu que ce n'est pas parce que vous êtes née femme que vous ne pouvez pas devenir qui vous avez réellement envie d'être. Et c'est un message qui en fait s'applique même à n'importe qui. Donc c'est un très beau message que la marque a voulu faire passer là.
Merci Clément de nous faire découvrir cette campagne que je ne connaissais pas pour ma part. La communication responsable, c'est s'engager de manière environnementale et sociétale pour un monde meilleur, un autre monde. Et justement, avant de poursuivre sur notre thématique du jour, nous allons marquer une pause musicale avec un autre monde du groupe Téléphone. A tout de suite sur RCF en Bourgogne.
RCF en Bourgogne avec les étudiants du master MACI spécialisé en stratégie de communication internationale Élite la ville.
On continue sur le Curious Live. Je suis accompagnée de Clément. Nous sommes avec Léa, Mathieu et Salomé. Nous avons avec nous, je le rappelle, Cyril Maslow, chercheur et directeur adjoint du laboratoire Siméos, mais aussi maître de conférences en sciences de l'information et de la communication, tout cela au sein de l'université de Bourgogne-Franche-Comté. Comme cela a pu être dit dans le micro-trottoir que nous avons écouté un peu plus tôt, beaucoup de personnes s'interrogent sur le discours que les entreprises peuvent tenir sur la communication responsable. N'est-ce pas que des mots, des faux-semblants finalement ? Certains se le demandent. Léa, tu peux nous en dire plus sur les risques de dérive éthique ?
Alors oui, pour reprendre ce qu'a dit Salomé, effectivement, la communication des entreprises a évolué puisqu'elles ont dû répondre à de nouveaux enjeux qui ont été évoqués précédemment. Mais c'est vrai qu'il y a certaines entreprises qui cherchent uniquement à retirer les bénéfices que peut entraîner la mise en place d'une communication responsable sans pour autant mettre en place des actions concrètes. C'est ce qu'on appelle faire du washing. Si on devait résumer en quelques mots le washing ou le blanchiment en français, ce serait le fait de mentir pour faire du profit. On utilise ce terme dans un contexte marketing lorsque des entreprises se servent de causes comme l'écologie, le droit des femmes, pour redorer leur image ou sembler engagées car c'est la tendance entre guillemets du moment et cela leur permet d'augmenter leurs ventes. L'idée qu'il faut retenir, c'est qu'il est très important de prendre du recul sur ce que dit l'entreprise et ce qu'elle fait concrètement. C'est vrai que le washing peut être plus ou moins évident à déceler parfois.
Tu as des exemples concrets de washing à nous partager ?
Alors oui, premièrement, une marque peut se dire éco-responsable alors que le produit ne l'est pas entièrement. Par exemple, une chaussure ou seulement les lacets seraient produits en matière recyclée. Ou alors, le produit peut être fabriqué exclusivement à partir de matériaux éco-responsables, mais dans le non-respect des droits de l'homme, notamment en sous-payant les employés. Parfois, certaines entreprises mettent en place des actions qui, au premier abord, semblent altruistes. Reverser 1% de leur vente à une association ou 1 euro pour chaque produit acheté, sans pour autant se préoccuper de la source réelle du problème, qui peut être l'empreinte écologique due aux déchets générés par l'entreprise. Cela concerne également les marques qui vont communiquer pour un certain événement. On va avoir Octobre Rose, la Journée internationale des droits des femmes, la Journée de la Terre, etc. La marque va se présenter comme étant une alliée de la cause à l'instant T, mais ne va pas mener de réelles actions concrètes le reste du temps. L'information est donc manipulée et peut donc invisibiliser de véritables initiatives. D'où la nécessité de toujours bien s'informer, car il est également possible de faire du washing de manière involontaire. Une entreprise peut par exemple déléguer sa production et se retrouver avec des fournisseurs qui ne respectent pas les codes éthiques sans qu'elle soit forcément au courant. Mais l'entreprise est toutefois responsable des actions qu'elle entreprend et se doit d'être au fait de ce qui se passe durant tout le cycle des produits qu'elle vend.
Alors, on entend surtout parler du greenwashing, mais de nombreuses autres formes de washing sont toujours assez méconnues. C'est donc difficile de pouvoir pointer une entreprise du doigt et de crier « attention washing ». Donc, quelles sont les autres formes de washing et comment les reconnaître ? Mathieu, tu peux nous expliquer ?
Alors, comme l'a évoqué Léa, certaines entreprises font du washing. Elles souhaitent uniquement tirer les bénéfices financiers que peut apporter une communication responsable sans mettre de réelles actions en place. Il existe toutes sortes de washing, on a pinkwashing, happy washing ou encore rainbow washing. Cependant, certains reviennent plus fréquemment dans la communication des marques, notamment le plus connu d'entre tous, le greenwashing ou éco-blanchiment en français. C'est tout simplement le fait de se construire une image d'entreprise engagée dans la cause écologique et environnementale via une communication trompeuse ou mensongère. À titre d'exemple, et comme le mentionnait précédemment une personne interviewée lors du micro-trottoir, nous pouvons citer la transformation du logo de McDonald's en 2009 en Europe. Le logo passe alors d'un fond rouge à un fond vert, représentant la nature et l'écologie, afin de se positionner comme une marque engagée pour l'environnement et donc toucher les consommateurs soucieux des enjeux environnementaux actuels. C'était un choix très décrié à l'époque et encore aujourd'hui du fait de l'impact négatif du géant du fast-food sur la planète. En effet, malgré les efforts que la marque a produits pour limiter sa contribution à la pollution planétaire, McDonald's reste l'une des entreprises qui pollue le plus au monde. Cela s'explique notamment par la production excessive de viande de bœuf qui fait appel à des besoins en eau et en terre conséquents, qui dégage de fortes émissions de méthane, un gaz à effet de serre contribuant au réchauffement climatique.
Et quels sont les risques auxquels les entreprises s'exposent en cas de washing ?
Alors dans ce cas-là, l'entreprise s'expose à différents risques. D'une part, d'un point de vue externe, l'entreprise risque de perdre en crédibilité, étant donné qu'elle n'est pas réellement comme elle le prétend, que ce soit au niveau de ses valeurs ou au niveau de son éthique. De plus, elle risque également de perdre la confiance des consommateurs qui auront l'impression que la marque leur ment, uniquement dans le but de se donner une bonne image afin d'attirer de nouvelles cibles plus soucieuses des enjeux environnementaux et sociétaux actuels. D'autre part, d'un point de vue interne, une entreprise qui utilise le washing risque de se mettre à dos une partie de ses collaborateurs. En effet, ils auront le sentiment d'avoir été trompés, dupés par celle-ci. Ils risquent donc de quitter l'entreprise ou bien de participer à la construction de sa mauvaise réputation. Ce qui pourrait engendrer des difficultés de recrutement, d'autant plus que les générations actuelles, les millennials, qui sont les personnes nées après 1980, sont très sensibles à l'impact que pourrait avoir l'entreprise sur les problématiques environnementales et sociétales actuelles.
Alors, on vous parle beaucoup de washing pratiqué par les entreprises. C'est un peu à croire que pour faire du profit, elles sont obligées de manipuler l'information pour s'aligner avec les attentes des consommateurs. Est-ce que la notion de communication responsable est compatible avec le commerce, Cyril ?
Comment voulez-vous que quelqu'un qui, par exemple, doit vendre des Lamborghini, des yachts, du pétrole, puis même à des moments beaucoup plus bas, hein, qui doit vendre tout simplement dans son magasin, dans son épicerie, des bananes, puisse mettre en place de la communication responsable ou en avant une responsabilité communicationnelle. Très difficile. Donc, en l'occurrence, dans le monde du commerce classique, moi, je rappelle toujours, il est toujours mené encore à l'heure actuelle par la grande parole de Walter Lippmann, 1920, un grand journaliste qui est le précurseur, en fait, de ce qu'on a appelé les relations publiques, qui est devenu, en fait, ni plus ni moins que le marketing actuel, et qui décrivait déjà à l'époque l'idée que le principe du marketing, le principe de la publicité, c'est de créer chez l'humain des illusions nécessaires. Le but de la publicité, c'est quand même de vendre des produits dont nous n'avons pas besoin. Donc, fondamentalement, ces principes-là vont à l'encontre d'une communication dite responsable, vont à l'encontre d'une responsabilité communicationnelle. A-t-on le droit, dans la situation dans laquelle on est en 2022, de promouvoir encore des illusions nécessaires ? J'en suis pas certain. Est-ce qu'on a besoin d'un iPhone 22, d'un Galaxy 42 et de la dernière tablette bidule, d'une PS42 aussi? Est-ce qu'on a besoin de tout ça?
Bon. Et quant à la forme, quelles sont les questions à se poser pour appliquer cette notion de responsabilité à la communication, notamment d'un point de vue éco-responsable?
Quand on est sur la forme de la communication responsable, là c'est beaucoup plus technique. C'est concrètement d'abord, est-ce que j'imprime ? Est-ce que je fais que du numérique ? Mais attention, est-ce que mon numérique n'a pas aussi un coût extraordinaire du point de vue carbone, CO2, etc. Une donnée numérique qui transite sur Internet, vous connaissez sa distance moyenne dans le monde ? 15 000 kilomètres. Voilà. Vous envoyez un mail, il y en a qui vont faire éventuellement peut-être 200-300 de kilomètres, mais il y en a qui vont faire 30 000 kilomètres pour arriver à leur destinataire. C'est des trucs de dingue. Hein. Donc forcément, il y a de l'énergie derrière, etc. etc. Donc toute la forme de la communication responsable, c'est comment je fais dans l'événementiel, comment je fais en termes d'éclairage, comment je fais en termes de print, est-ce que j'imprime des choses? Et si j'imprime, quel papier j'utilise? Avec quel type d'encre? Comment je réfléchis tout ce qui est recyclage? Bref, toutes vos activités en tant que jeune devenant communicant vont avoir des impacts, effectivement, sur la biodiversité. À vous de réfléchir à comment les diminuer. Alors, non seulement au niveau environnemental, mais aussi au niveau social.
Merci beaucoup, Cyril Maslow, de nous éclairer sur le sujet. Mais alors, comment savoir si on est face à du washing, Clément ?
Alors, ce qui est important lorsqu'on est face à une pub, c'est d'avoir le contexte, en fait, de savoir, par exemple, quelles sont les valeurs de l'entreprise. Un exemple concret, vous vous promenez dans la rue, vous tombez sur une pub qui fait la promotion de l'écologie, mais vous voyez que ça provient d'un groupe pétrolier. Alors là, vous pouvez vous demander s'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part, quoi, parce que connaissant les groupes pétroliers, on rigole. C'est un peu les experts en la matière en pollution. Donc, ce sont des questions qu'on peut se poser. On peut les accuser de greenwashing. Ce qui est important de savoir, et les questions qu'il faut se poser, elles peuvent se poser, en fait, à la fois pour des gros groupes, mais aussi, par exemple, je sais pas, moi, pour Marcel Pougeot, l'épicier du coin. Donc, voilà, c'est des questions qui sont importantes à se poser. On va prendre un exemple concret avec la publicité dont je vous parlais tout à l'heure, donc concernant Nike, avec le féminisme. Par rapport à Nike, en fait, il faut s'intéresser à ce qu'ils font. Et concrètement, Nike, on peut voir que depuis le début des années 80, ils aident les femmes, en fait, à avoir accès au sport au même titre que les hommes. On peut aussi compter des sportives très célèbres parmi les égérie de la marque, comme Megan Rapinoe, qui est footballeuse américaine, qui a remporté 2 fois la Coupe du Monde et qui a été ballon d'or féminin. On a aussi Serena Williams, qui est sans doute l'une des plus grandes sportives de l'histoire. Donc voilà, on a chez Nike des exemples féminins à montrer aux jeunes filles, et c'est aussi des valeurs qui sont importantes pour la marque, et c'est aussi ce dont ils ont voulu montrer dans la publicité. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut dire que Nike s'active réellement pour les femmes, et donc on peut vraiment dire que c'est une communication responsable et non pas du washing.
C'est déjà la fin de cette 3e émission. Merci beaucoup Léa, Mathieu, Salomé et Clément de nous avoir éclairés sur ce sujet. Merci également à Cyril Maslow de nous avoir fait don de votre temps et de votre expertise. Et si vous voulez en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à notre blog, le Curious Blog, sur junioragencemassy.fr/blog, et on se retrouve le mois prochain.
pour échanger sur une nouvelle thématique. À bientôt. 18h30 sur RCF, la suite de C'est le Mag avec votre journal local.